Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En Éthiopie, investiture ce jeudi à Addis Abeba de la première femme à présider la Cour suprême de justice. Le Parlement éthiopien a approuvé à l'unanimité la sélection de la magistrate Maïsa Achenafi pour ce poste par le Premier ministre réformateur Abiy Ahmed. Une initiative prise dans le cadre des efforts du chef du gouvernement pour promouvoir la parité homme-femme au plus haut échelon de l'État. Abiy Ahmed a formé il y a 2 semaines un gouvernement comptant 20 ministres, dont 10 femmes, ce qui fait de l'Éthiopie le 3e pays d'Afrique après le Rwanda et les Seychelles à atteindre la parité dans ce domaine. La semaine dernière, l'Éthiopie a également choisi comme présidente Sally Work Zewde, la première femme à accéder à la magistrature suprême dans le pays. Au Nigeria, nouvelle attaque de présumés militants de Boko Haram dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs de Maiduguri, chef-lieu de la province de Borno dans le nord-est du pays, épicentre de la rébellion du groupe djihadiste. Bilan, selon l'agence Reuters, au moins 15 résidents tués, dont 5 dans le village de Kofa et 9 dans le village voisin de Boulabrine. L'armée signale qu'il y a eu aussi un mort à Dalori. Maiduguri est un important bastion des forces gouvernementales et le quartier général de la lutte dans le nord-est contre Boko Haram et la filiale du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Nigeria, toujours, les partisans d'un groupe chiite radical enterrent leurs morts à la suite de 3 manifestations que l'armée a brutalement réprimées à Abuja, la capitale fédérale. Le mouvement islamique du Nigeria affirme que 49 personnes ont été tuées en 4 jours, alors que l'armée maintient un bilan de 6 morts. Eric Maniakiza.
Des familles endeuillées se sont rassemblées hier pour préparer les funérailles de leurs proches. Nous nous sentons mal, nous nous sentons lésés, nous sommes opprimés, a déclaré Abdullahi Mohamed Moussa, membre de son mouvement islamiste. L'armée a de son côté assuré que les manifestants avaient attaqué ces hommes qui ont répondu par des tirs à balles réelles. Ils manifestaient pour réclamer la libération de leur leader, Ibrahim Zakzaki, emprisonné depuis près de 3 ans. Depuis son arrestation, Zakzaki n'a été vu en public que 2 fois. Fin 2016, un tribunal fédéral avait jugé sa détention illégale et ordonné sa libération, mais cette décision n'a jamais été exécutée. Cette situation fait craindre une escalade de la violence, la répression violente de l'armée, puis l'assassinat du fondateur de Boko Haram, Mohamed Youssouf, avait largement incité ses partisans à prendre les armes.
Afrique de l'Ouest toujours, le prince Charles, héritier du trône britannique, et son épouse Camilla sont depuis mercredi en Gambie, première étape d'une tournée d'une semaine en Afrique destinée à renforcer les liens avec les pays du Commonwealth britannique. Le prince Charles, dont c'est le premier séjour en Gambie, visite aujourd'hui le Medical Research Council de Banjul, un centre spécialisé notamment dans la lutte contre le paludisme qui dépend de la faculté d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Charles et son épouse se rendront demain vendredi au Ghana avant d'achever leur tournée africaine du 6 au 8 novembre au Nigeria. Afrique centrale maintenant, des humanitaires tirent la sonnette d'alarme face à la situation des ressortissants de la RDC expulsés d'Angola en octobre. Ces déplacés installés maintenant dans le centre de la République démocratique du Congo ont besoin d'aide d'urgence. Le point avec Abdourahmane Dia.
Quelques 200 000 Congolais ont été expulsés vers la RDC en octobre par l'Angola, qui a évoqué une opération contre l'immigration clandestine dans la province du Lunda Nord. D'après Charles Wontewe, directeur d'Oxfam en RDC, ces personnes déjà traumatisées et démunies ont désespérément besoin de toute urgence de nourriture et d'eau potable. Certains expulsés sont accueillis par des personnes qui luttent elles-mêmes contre la pauvreté, la faim et la maladie. Selon M. Wonteke, des familles démunies hébergent parfois jusqu'à 30 personnes rentrées d'Angola. Le comité international de la Croix-Rouge a indiqué que 50 000 personnes se trouvent bloquées et sans ressources près de la ville frontalière de Komako. D'après le CICR, depuis leur expulsion, tout leur manque, hébergement, soins médicaux et nourriture. La région du Kasaï est l'une des plus pauvres de la RDC. Elle a basculé dans la violence entre 2016 et 2017 et ce conflit, selon les Nations Unies, a fait près de 3 000 morts et plus d'un million de déplacés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, poursuite des violences en zone anglophone, les autorités camerounaises ont accusé mercredi des terroristes d'avoir causé la mort de missionnaires américains dans cette région du pays. Washington a assuré de son côté que son ressortissant avait été victime de tirs croisés. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Charles Wesco, le missionnaire tué par balle mardi, a été la cible de terroristes lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie. Une zone universitaire, a affirmé le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Sur les réseaux sociaux, plusieurs séparatistes des régions anglophones ont quant à eux imputé la responsabilité de la mort de l'Américain à l'armée camerounaise. Le département d'État américain s'est gardé d'accuser un bord ou l'autre en insistant sur le fait que Yaoundé avait promis une enquête approfondie sur la mort de Wesco. Nous avons été en contact avec de hauts responsables de la sécurité gouvernementale du Cameroun et nous estimons que la victime s'est retrouvée prise dans des tirs croisés, a déclaré Robert Paladino, un porte-parole de la diplomatie américaine. Le drame s'est produit à Bambouy, à 14 km de Bamenda, capitale de la région anglophone du Nord-Ouest. Le département d'État américain a appelé les rebelles séparatistes et les forces gouvernementales camerounaises à entamer immédiatement un dialogue ouvert et sans condition.
Actualité ici aux États-Unis, à moins d'une semaine des élections de mi-mandat du 6 novembre, les Américains sont alarmés non seulement par le massacre perpétré dans une synagogue de Pennsylvanie, mais aussi par l'interception de plusieurs colis piégés envoyés à des leaders démocrates et autres critiques du président républicain Donald Trump. Le scrutin de mardi prochain, il faut le dire, pourrait avoir un grand impact sur les deux dernières années du mandat du président Trump. Les précisions de Lionel Gaïma.
À Pittsburgh, en Pennsylvanie, c'est le recueillement en mémoire de victimes du massacre de la synagogue Tree of Life, un massacre dénoncé par le président Donald Trump.
We condemn the historic evil.
Nous condamnons le mal historique de l'antisémitisme et toute autre forme de mal, et malheureusement, le mal vient sous plusieurs formes. Et nous devons nous unir comme un seul peuple américain.
And we come together as one American people.
Pour l'analyste John Haddad de la Brookings Institution, un cercle de réflexion de Washington, la fusillade de Pittsburgh et l'inculpation de l'homme accusé d'avoir envoyé des colis piégés ont accru la tension dans la dernière ligne droite de la campagne électorale.
Well, the country is in pain. This is a...
Le pays souffre du fait de cette série de circonstances qui, malheureusement, surviennent trop souvent aux États-Unis. Des actes de violence et d'agression d'Américains contre leurs propres compatriotes.
Parmi les voix appelant au calme, c'est de l'ancien vice-président Joe Biden.
Je sais que parfois, la colère, la haine, la méchanceté menacent de nous submerger. Et il revient à nos leaders de donner le ton, de baisser le ton et de redonner une certaine dignité à notre dialogue national.
Pour certains démocrates, les attaques partisanes du président Trump ont contribué à créer une atmosphère politique tendue. Un avis que rejette le porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders.
Le premier réflexe des médias a été d'accuser le président Trump et de lui imputer la responsabilité de ses actes ridicules. C'est scandaleux que cela soit leur première réaction.
Pour sa part, le président Trump se dit déterminé à mener jusqu'au jour du scrutin une vigoureuse campagne pour les questions importantes pour ses partisans, comme l'immigration.
Le Parti démocrate encourage ouvertement des millions d'étrangers en situation illégale à violer nos lois et nos frontières et à mener notre pays à la faillite, ce qui est en train d'avoir lieu.
Les démocrates ont, de leur côté, concentré leur message électoral sur l'assurance maladie, mais le scrutin sera avant tout un référendum sur la présidence de Trump, souligne Jim Kessler, vice-président du cercle de réflexion Third Way, basé ici à Washington. On s'attend à ce que les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants, une perspective périlleuse pour le président Trump, dans la mesure où ces démocrates pourraient alors bloquer toutes ces initiatives, ouvrir de nombreuses enquêtes et du coup compliquer ses chances de réélection en 2020.
Sahara occidental, pour terminer, le Conseil de sécurité a approuvé mercredi une résolution renouvelant pour 6 mois la mission de l'ONU MINUSO dans cette ex-colonie espagnole, alors que les premiers pourparlers depuis 2012 entre les différentes parties sont prévus début décembre. La France et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, souhaitaient le retour à un mandat d'un an de la MINUSO, mais les États-Unis, rédacteurs de la résolution, jugent que mandat court pousse les parties à trouver une solution autour d'une table de négociation. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet VOA Afrique. voa.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.